Mondialisation, inflation, délocalisation, spéculation, individualisme, profit. Marre d'une économie qui mène à la crise. Économie sociale et solidaire, démocratie, coopération, engagement, partage, proximité, pérennité.
Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est en novembre. Faites votre programme sur www.lemois-ess.org. Social et solidaire, l'économie qui sait où elle va.
Informer sur une économie qui a du sens et qui sait où elle va, l'économie sociale et solidaire, c'est l'objectif de ce mois de novembre qui lui est consacré. L'environnement et le fonctionnement des entreprises changent. Quels sont les enjeux de ces mutations? Président, administrateur, responsable des ressources humaines étaient amenés à débattre sur ce sujet le 5 novembre dernier au Palais des Congrès et de la Culture du Mans lors du 5e colloque des employeurs de l'économie sociale. Retour sur cette 5e édition. Dans cette émission, le regard de deux élus sur l'économie sociale, Jean-Claude Boulard, maire du Mans et président de Le Mans Métropole, et Fabienne Renaud, conseillère régionale déléguée à la direction d'entreprise et à l'économie sociale et solidaire. Et également les préoccupations majeures et actuelles des dirigeants de l'économie sociale avec Hugues Vidor, vice-président de l'USGRES, Union des syndicats et groupements d'employeurs représentatifs dans l'économie sociale, et Gilles Cavé, délégué régional de l'USGRES.
Jean-Claude Boulard, bonjour.
Bonjour.
Maire du Mans, président de Le Mans Métropole, vous avez ouvert ce 5e colloque de l'économie sociale et solidaire. Quel regard vous avez, de votre point de vue d'élu de collectivité locale, quel regard portez-vous sur l'économie sociale et solidaire?
D'abord, sur la découverte, honnêtement, c'est un secteur qui est pas très connu. Je crois que ce genre de colloque a ce premier objet de le faire connaître. Le nombre d'emplois, 20 000 dans la Sarthe, 146 000 sur la région des Pays de Loire. Moi, ces deux chiffres, je ne les avais pas avant d'entrer en séance. Et puis deuxièmement, la croissance des emplois. Jusqu'en 2009, je sais pas, on n'a pas la courbe 2010. Donc honnêtement, premier objet de ces rencontres, faire connaître et faire mesurer la place, le poids de l'économie solidaire.
Qu'est-ce que les associations coopératives mutuelles apportent aux collectivités locales?
D'abord aux gens, c'est pas aux collectivités locales. Le rapport n'est pas prioritairement avec les collectivités. Le rapport est avec les personnes dans le cadre à la fois des services qu'elles mettent en œuvre et des emplois qu'elles créent. Avec une originalité, c'est notamment au niveau de l'encadrement, des présidences, de pouvoir faire appel à des personnes qui ont une expérience professionnelle, mais qui en général ne sont plus forcément en activité, qui ont une énergie. Et donc c'est formidable d'apporter, souvent gratuitement, à une association, à une entreprise solidaire, la force, l'énergie de femmes et d'hommes, d'expérience, dans une deuxième type d'activité après l'arrêt de leur propre activité.
Les sujets abordés lors de ce colloque vous paraissent-ils pertinents? Vous l'avez parlé, l'enjeu de la gouvernance. Qui dirige et comment l'avenir de cette économie dans un monde de plus en plus capitalistique et spéculatif? Le développement d'emplois durables?
Oui, en fait, écoutez, moi, j'avoue que je ne veux pas les slogans, les clichés spéculatifs, tout ça. Moi, je ne suis pas dans le monde des perroquets. Donc, je crois profondément à l'économie de marché. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Du reste, il faudrait qu'on assume une bonne fois pour toutes. Tous ceux qui ont cherché à monter d'autres économies se sont cassés la figure. Et il y a une voie qui est originale, que les Allemands appelaient l'économie sociale de marché, la Sozialmarktwirtschaft, qui était de dire que on pouvait, en respectant les règles de l'entreprise, où il y a des dépenses et des recettes, et il vaut mieux, si on veut durer, que les recettes durablement soient au même niveau que les dépenses. Ça, je sais ce que je parle, quand je parle comme ça, je sais de quoi je parle. Qu'il y a un apport, il y a des motivations, d'abord, qui sont un peu différentes. On n'a pas à distribuer de dividendes et de rémunérer des actionnaires et des administrateurs. On a la chance de pouvoir être géré par des responsables bénévoles. Donc il y a des coûts que l'on n'a pas. Et donc ça donne une possibilité de rendre des services à des coûts qui sont plus maîtrisés et donc les rendre plus accessibles à des gens à des niveaux de revenus plus faibles. C'est ça le créneau de l'économie sociale et solidaire. Elle profite du fait qu'elle peut avoir des coûts un peu différents, des contraintes un peu différentes, il n'y a pas d'obligation de rémunération de capital, mais par ailleurs, il y a aussi une économie de marché qui rémunère du capital, parce que si vous n'avez pas de capital, vous ne pouvez pas faire fonctionner une économie de marché. Donc moi, je ne m'inscris pas du tout dans le discours d'aujourd'hui, bon, qui n'est pas nouveau, mais qui relève un peu de l'économie. L'économie sociale et solidaire a sa place, elle a sa reconnaissance, elle a sa croissance d'emploi, elle est un secteur qui, ayant assumé les règles aussi l'économie de marché, la rationalité, porte aujourd'hui des emplois parce que elle a des avantages, des intérêts et des allègements sur certaines charges qu'elle n'a pas, qui lui permettent de pénétrer sur des secteurs en offrant à des prix intéressants des services.
Alors, lors de votre discours, vous avez dit que l'économie sociale avait sa place, notamment en période de crise, et vous avez cité comme exemple les quartiers. Concrètement, dans l'agglomération Mancelle, comment ça se passe ?
Honnêtement, là aussi, c'est l'initiative. Comment on aide à créer des richesses ? On tourne autour du même sujet. On ne peut pas partager durablement si on ne crée pas des richesses. Moi, je ne sais pas comment faire. Même le CRIS, qui n'est pas vraiment un de mes compagnons de route, a multiplié les pains avant de les distribuer. C'était très intéressant. Cette parabole, il a commencé par multiplier. Après, il a distribué. Je crois qu'on a, en économie, on oublie cette chose fondamentale que on crée d'abord, on partage ensuite. Et donc, créer des initiatives, développer des initiatives dans les quartiers, accompagner le créateur d'entreprise, qu'il y a des talents. Alors, c'est vrai que, prends Maria Novak, qui est pour moi la grande femme engagée sur le crédit d'initiative dans ce monde de l'économie solidaire. Prends un exemple de ce que peut apporter l'économie solidaire dans l'accompagnement de la création d'activités dans les quartiers. Et comme aujourd'hui, à la fois les emplois aidés, malheureusement, l'État est en train de réduire les crédits, l'économie de marché crée pas beaucoup d'emplois en ce moment. J'espère qu'elle recommencera à en créer à travers la croissance retrouvée. Je verrai, on aura beaucoup de nostalgie pour la croissance dans quelques temps et on reparlera de l'importance de la croissance. Dans cette phase-là, à avoir l'accompagnement de la création et de l'initiative des jeunes dans les quartiers et donc de mettre en œuvre l'ensemble des réseaux de l'économie solidaire, les réseaux comme l'ADI et d'autres qui portent effectivement la création d'emplois, c'est essentiel. Donc si un certain nombre d'idées pouvaient se développer dans la journée, de choses nouvelles, supplémentaires qu'on pourrait faire pour accompagner la création d'activités dans les quartiers, ça serait très bien.
Vous avez parlé aussi du fait, notamment en ce qui concerne la gouvernance, sur les retraites, vous êtes allé un peu à l'encontre des retraités. Oui. Allé un peu à l'encontre d'un cliché, dites-vous, sur les retraites. Après travail, il y a une vie, et cette vie peut être dans l'économie sociale et solidaire.
Je ne veux pas à l'encontre d'un cliché, la vie s'allonge. On est quand même, en général, en meilleur état, notamment quand on a eu des métiers tertiaires. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont eu des métiers dans le tertiaire. En général, à 60 ans, ou à 62 ans, ou un peu plus tard, le tertiaire vous rend dans un état assez correct, avec de l'énergie, des savoirs, de l'expérience. Jean-Louis Lemierre, par exemple, était un collaborateur tout à fait efficace de la collectivité. Bon, moi, c'est formidable qu'il continue, parce qu'il a de l'expérience, du savoir, de la compétence. Il bénévolement, il dirige une entreprise de 700 personnes. Donc, je crois qu'il faut qu'on mesure ce que ça représente de pas avoir un président à rémunérer. Dans l'économie de marché classique, faudrait rémunérer les dirigeants. Enfin, c'est quand même un allègement. En même temps, je pense que pour lui, c'est une valorisation parce qu'on continue à le reconnaître plutôt qu'il soit que dans le loisir. Alors, on peut choisir après un certain âge d'être dans le loisir. C'est pas idiot comme choix non plus. Mais moi, je crois que l'économie solidaire va offrir à des femmes et des hommes en bon état, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de pugnacité, surtout de l'expérience. Un champ de responsabilité qui est considérable. C'est une des grandes chances de l'économie solidaire par rapport à l'économie de marché qui a plus de mal à faire de la place, semble-t-il, aux travailleurs un peu plus âgés.
Une dernière question. Vous soutenez cette économie sociale. Comment faire pour qu'elle se poursuive,
pour qu'elle soit performante. C'est clair, pour qu'elle soit performante. Moi, je ne crois pas à l'avenir de quiconque qui n'est pas performant. Moi, je pense qu'elle sera performante. L'idée de soutien, et moi, je sais pas, j'ai toujours pensé qu'il faut d'abord, c'est plutôt l'idée de responsabilité, de compétence, de qualification. C'est le cas. Quelles sont les règles des autres, qu'on ne lui impose pas des contraintes qui la rendrait plus en situation plus difficile, mais je crois que c'est plutôt l'affirmation de sa responsabilité, de ses qualités, de ses capacités, qui assure son avenir plutôt que tel ou tel soutien, qui sera un soutien de discours et pas de fait, quoi.
Merci Jean-Claude Boulard, maire du Mans, président de Le Mans Métropole. Merci à vous.
Autre regard d'élu, celui de Fabienne Renaud, conseillère régionale déléguée à la création d'entreprises et à l'économie sociale et solidaire.
C'est 13% de l'emploi que représente l'économie sociale et solidaire. La région soutient totalement cette autre forme d'économie.
Bien sûr, que sinon, déjà ça explique ma présence ici. Bien sûr que la région soutient le secteur de l'économie sociale et solidaire. Pour vous donner un ordre d'idée, 13% de l'emploi, c'est autant que l'agriculture ou autant que le tourisme en région Pays de la Loire. Donc quand on dit ça, ça devient beaucoup plus parlant et ça permet aussi de montrer l'importance de ce secteur. Donc effectivement, nous le soutenons à travers un schéma régional de développement économique auquel nous avons consacré une filière entière pour le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et nous essayons de soutenir à la fois la représentation, la visibilité de ce secteur, mais aussi concrètement le développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui, comme cela vient d'être dit, ont continué à créer de l'emploi, y compris pendant la période de la crise.
Quel dispositif met la région justement à disposition de cette économie? Je crois qu'il y a eu la création des emplois tremplin, c'est un exemple?
Bien sûr, les emplois tremplin sont un soutien souvent à des structures en termes d'ingénierie et de développement. Ce sont souvent des agents de développement qui ont été sollicités pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des dispositifs très concrets qui ont été une adaptation de dispositifs classiques pour les autres secteurs de l'économie, mais de cette façon très adaptée pour l'économie sociale et solidaire, en prenant en compte, et ça c'était quand même une nouveauté depuis 2004, l'ensemble des statuts. C'est-à-dire que l'entreprise est considérée par l'objectif qu'elle mène et non pas par son statut, ce qui nous a permis de prendre en compte par exemple les associations ou les coopératives qui étaient exclues de ce champ et de pouvoir par exemple concrétiser des fonds régionaux d'aide au conseil pour leur permettre de réfléchir sur le développement de leur activité, sur justement leur organisation statutaire, des aides à l'investissement, des aides au développement, des outils financiers de confortation des fonds propres, par exemple, qui sont très importants pour permettre le développement de ces structures.
Est-ce que vous êtes optimiste pour le développement justement de cette économie sociale et notamment en Pays de la Loire, 13% déjà c'est énorme en matière d'emploi?
Oui, moi je suis optimiste parce que justement la période de la crise a permis de se réinterroger sur les valeurs et le sens du travail et de l'objectif de l'entreprise. Et les valeurs que le secteur de l'économie sociale et solidaire porte ont un retentissement dans la population. On a bien senti que les citoyens souhaitaient savoir à quoi servait leur épargne, pourquoi ils travaillaient, dans quel sens on faisait évoluer la société. Et le bling-bling et tout ce qui pouvait être de l'économie virtuelle a montré ses limites. Je pense qu'avec l'économie sociale et solidaire, on est dans une économie durable, pérenne, ancrée dans le territoire, qui porte des valeurs humaines qui sont au centre de son objectif et non pas du profit qui serait reversé à des actionnaires des fonds de pension américains ou bien loin de nos préoccupations quotidiennes. Donc moi j'ai foi parce que j'ai des convictions politiques qui me portent dans ce secteur-là.
Et pour terminer, je vais reprendre votre conclusion au moment d'intervention. C'est le travail avec les employeurs pour construire ensemble. Ça, c'est important.
Bien sûr, ça a toujours été ma méthode depuis le début. D'abord parce que c'est aussi la façon de fonctionner des entreprises de l'économie sociale et solidaire et de ce secteur-là. Nous sommes dans la construction ensemble d'un projet. Et je ne me verrai pas déterminer un projet toute seule. Je veux le faire avec eux, continuer à le travail qu'on a commencé. Et pour moi, cette méthode-là, elle fait partie de la façon de fonctionner dans l'économie sociale et solidaire, les conseils d'administration, la façon de partager. C'est automatiquement de cette façon-là qu'on doit le faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai profité pour lancer cet appel. J'espère qu'il va être entendu. J'en attends au moins deux, cet investissement, pour que la politique que nous allons déterminer au niveau du Conseil régional corresponde aux attentes de ce secteur.
Hey, ça va ?
Ouais, ça va, ouais. Je sors du bureau de la conseillère d'orientation.
Ah ouais ? Et tu sais ce que tu veux faire ?
Bah, je veux m'investir dans un taf qui a du sens. Mon avenir, je l'envisage avec des vitamines, pas des pesticides. Un concept genre éco comme économie, éco comme écologie.
Nickel !
Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est en novembre.
Pour les infos, connecte-toi sur www.lemois-ess.org.
Social et solidaire, l'économie qui sait où elle va.
Hugues Vidor et Gilles Cavé, bonjour.
Bonjour.
Alors Hugues Vidor, vous êtes vice-président de l'UGRS, on va rappeler ce qu'est l'UGRS, c'est l'Union des syndicats et groupements d'employeurs représentatifs de l'économie sociale. Gilles Cavé, donc délégué régional de l'UGRS, vous venez d'évoquer lors de ce colloque les préoccupations majeures et actuelles des dirigeants de l'économie sociale. Alors avant de précisément d'entrer dans le sujet, on peut peut-être rappeler qui sont ces dirigeants employeurs. Ce sont des bénévoles, des salariés. Quel est leur profil? Quel parcours ont-ils? Hugues Vidor, peut-être.
Alors les employeurs de l'économie sociale, ce sont des dirigeants bénévoles dans le secteur associatif. Ce sont des directeurs de structures dans le secteur coopératif ou dans le secteur mutualiste. Donc on a des composantes et des fonctions différentes. Donc l'économie sociale, c'est le monde des mutuelles, le monde des associations et le monde des coopératives. Et si on prend l'UGRS, nous rassemblons 27 syndicats d'employeurs qui touchent aux missions locales, à l'aide à domicile, aux foyers de jeunes travailleurs, au domaine de l'animation, comme à celui de la mutualité et des coopératives. Donc c'est un domaine extrêmement large et ça concerne plus de 750 000 salariés en France sur un total de l'économie sociale de 2 millions de salariés.
Leur préoccupation actuelle dans l'économie sociale et solidaire, c'est l'emploi, c'est la pérennité de leur structure. C'est quoi leur préoccupation?
Alors on peut cibler différentes préoccupations. On a des préoccupations au niveau national et on a des préoccupations en tant qu'employeur. Alors très rapidement au niveau national, on a un grand souci et une grande demande auprès des pouvoirs publics, c'est le problème de la représentativité des employeurs de l'économie sociale. Aujourd'hui, les employeurs de l'économie sociale ne sont pas reconnus, dits représentatifs dans le cadre de la négociation interprofessionnelle. Alors que, par exemple, et pour donner quelques chiffres, nous avons eu un résultat tout à fait intéressant de nombre d'élus prud'homaux, puisque nous avons eu 20% d'élus prud'homaux aux dernières élections. Et pour autant, avec ces 20% d'élus prud'homaux, avec 10% du salariat français, nous ne sommes pas reconnus représentatifs dans le cadre du débat interprofessionnel. Et ça nous pose un problème d'équité et on considère qu'il y a véritablement un déni social et un problème de démocratie sociale qu'on se pose. Donc ça, c'est d'un point de vue national. Pour autant, ça ne nous empêche pas de négocier des accords. Mais le fait de cette absence dans la représentation institutionnelle nous pose problème. Au niveau local, les employeurs, ils ont des problèmes très quotidiens à gérer, notamment, évidemment, par rapport aux problématiques de financement. La crise est là, la crise est venue, et l'économie sociale y résiste mieux qu'ailleurs. Pour autant, elle est fortement impactée par l'augmentation du chômage, par la diminution des financements publics. Et de ce fait, il y a quelquefois des choix un peu drastiques qui se posent à l'employeur de l'économie sociale et qui le met quelquefois d'ailleurs en face de ses propres dilemmes entre volonté et valeurs propres à l'économie sociale sur les questions de considération de la personne et en même temps ces considérations à prendre en compte que sont les contraintes de gestion.
Gilles Cavé, en tant que délégué régional, quels échos avez-vous de la base? Quels sont les sujets, les questions de ces employeurs qui remontent à l'UGRS?
D'abord, il faut dire qu'il y a 70% des employeurs de l'économie sociale qui sont des associations, et souvent de très petites associations, avec aussi très peu de salariés. Et ça a été largement évoqué ce matin, un des principaux problèmes qu'ils rencontrent, c'est la compétence. Hein. Les dirigeants sont des bénévoles qui n'ont pas de manière évidente la compétence d'employeur. Et les questions très concrètes qu'ils se posent, je dirais, au quotidien, la réalité des conventions collectives, des bulletins de salaire, enfin des choses extrêmement pratico-pratiques de tout employeur. C'est aussi la raison pour laquelle nous proposons, nous, qu'ils appartiennent à un syndicat d'employeurs, en tout cas qu'ils adhèrent à un syndicat d'employeurs, parce que le fait de rester seul, isolé, est souvent très préjudiciable pour eux.
Quand on parle de dirigeants d'entreprises solidaires et sociales, est-ce qu'il faut avoir nécessairement de l'expérience? On voit que les dirigeants qui sont ici lors de ce colloque sont plutôt dans la tranche supérieure des âges. Est-ce que ce sont forcément des gens à la retraite? Est-ce qu'il faut de l'expérience ou est-ce qu'on peut se former étant plus jeune et venant du secteur public, privé ou du secteur de l'économie sociale et solidaire pour diriger donc une structure?
Moi, je dirais non. Il n'y a pas d'âge, effectivement. Tout à l'heure, vous avez évoqué la notion de dirigeant. Alors, Hugues a répondu que c'était des bénévoles, mais la notion de dirigeant est peut-être un petit peu plus large. Elle englobe aussi des gens qui, dans des entreprises de l'économie sociale plus importantes, ont des fonctions de direction. Hein, des directeurs généraux qui donc fonctionnent avec le conseil d'administration d'une association, par exemple, mais qui sont des gens avec des compétences réelles sur ça. Par contre, non, je pense que nous sommes un secteur, au contraire, qui accueille beaucoup de jeunes. Nos salariés, nous, dans nos différents milieux, sont des salariés jeunes. Et aujourd'hui, on n'hésite pas à confier des responsabilités à des gens qui sont jeunes. Il ne faut pas en déduire par rapport à la population là aujourd'hui présente. La participation à un colloque est souvent liée à de la disponibilité. Maintenant, non, on est un secteur plutôt dynamique avec un encadrement jeune, avec des gens qui ont envie de s'engager. Je crois que on ne dit pas suffisamment qu'il y a aujourd'hui des gens qui souhaitent, parce qu'ils veulent donner un peu un sens à leur vie, un sens à leur travail, ils souhaitent s'engager dans l'économie sociale et solidaire, hein, et pas dans un système, capitalistique habituel. Hein, ils ont envie de se démarquer de ce système-là.
Je partage totalement les propos de Gilles là-dessus, et c'est une des spécificités de nos métiers, de nos emplois, c'est le sens qu'on peut donner au travail. Et du coup, ça pose à terme la question de l'attractivité. Alors, vous parliez de l'attractivité pour les dirigeants, qu'ils soient bénévoles ou qu'ils soient effectivement directeurs salariés des structures, mais c'est aussi la question de l'attractivité par rapport aux salariés eux-mêmes, sachant que on ne revendique pas être un milieu fermé, c'est-à-dire que vient dans l'économie sociale tous ceux qui ont envie de partager avec nous une aventure, qui partagent aussi une certaine vision de la vie, en disant je vais consacrer du temps à m'investir pour le bien public, pour l'utilité sociale. Ça peut être dans un centre de soins infirmiers, ça peut être dans un centre social, ça peut être dans l'aide à domicile. On a une palette extrêmement importante de métiers tout à fait intéressants et attractifs qui répondent à des besoins sociaux et sociétaux et qui participent de notre cohésion sociale nationale. Mais on n'est pas du tout dans l'idée qu'on est dans un milieu fermé. C'est vrai du point de vue salarié, c'est vrai aussi au niveau des dirigeants bénévoles ou des directeurs de structure. On a dans les directeurs de structure des parcours et de personnalités qui viennent du secteur lucratif, qui font un passage dans l'économie sociale parce qu'ils se retrouvent dans les valeurs défendues et qui éventuellement peuvent repartir. On n'a pas là de prétention à enfermer. Au contraire, ce que l'on cherche à faire, c'est à développer des parcours professionnels pour les populations qui sont aujourd'hui chez nous, notamment par rapport à la question qu'on a évoquée ce matin sur la réforme des retraites et sur la nécessité de préparer des reconversions professionnelles. Donc tout ça, évidemment, se prépare, mais on est et on se sent tout à fait partie prenante du secteur économique. On considère que nous sommes des entreprises de personnes, des entreprises privées. On parle dans notre univers d'entrepreneuriat social. C'est pas neutre, c'est-à-dire qu'on se reconnaît dans des valeurs, on a des statuts, mais pour autant, on n'est pas enfermé dans une vision qui serait un petit peu restrictive de l'économie sociale où on reste entre nous. Non, on est ouvert.
Et alors, l'économie sociale et solidaire, face à la crise, est-ce qu'elle résiste ? Où elle est victime comme les entreprises capitalistiques ? de cette crise, baisse de la consommation, etc.
Hugues a dit tout à l'heure qu'effectivement, on vit pas hors du monde et hors du monde économique et qu'on est forcément impacté. Maintenant, nous, on considère qu'on a mieux résisté. On a mieux résisté dans des... parce que les logiques sont différentes. D'abord, on est sur des emplois de territoire, sur des emplois qui ne sont pas délocalisables, des emplois de proximité, et on n'a pas cette espèce de concurrence effrénée qui conduit des entreprises du jour au lendemain à procéder à des licenciements en masse. Donc, nous ne sommes pas dans ce même univers. Et par conséquent, effectivement, et les chiffres sont là pour le prouver, nous avons mieux résisté que le privé lucratif.
On pourrait parler encore de beaucoup de sujets, la dépendance du politique, les relations avec les collectivités locales, territoriales, mais aussi avec l'État. La vision d'un développement à court terme, ça peut se gérer justement par la gouvernance, une amélioration de la gouvernance des employeurs. La précarisation de l'emploi également, puisqu'il y a beaucoup d'emplois aidés. Quel thème souhaiteriez-vous aborder pour terminer cet entretien pour l'avenir ?
Sur la question des relations avec les pouvoirs publics, je pense que ça, c'est un aspect évidemment qui nous tient à cœur, puisque aujourd'hui, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent pour l'ensemble de nos secteurs. On se retrouve évidemment à mieux résister que d'autres à la crise. Reste que sur la problématique des financements publics, on est impacté et fortement impacté. Alors, c'est pas forcément lié à la crise, mais ça nous arrive. Et de ce fait-là, avec la nouvelle réglementation, là, ce qu'on appelle dans notre jargon la réglementation des politiques publiques, les RGPP, eh bien, il y a un changement de paradigme qui s'opère. C'est-à-dire que avant, c'était finalement l'association qui proposait des projets et qui pouvait être financée en fonction de l'appréciation des élus. Aujourd'hui, dans le cadre des schémas régionaux territoriaux, dans le cadre de la ARS, la pyramide est inversée. C'est-à-dire que le besoin est identifié par le niveau haut, au niveau régional ou départemental, et ensuite on met en situation de concurrence finalement les associations dans le cadre des logiques d'appel d'offres ou d'appel à projet pour répondre à ce type de projet. Donc la loi s'applique et nous sommes un partenaire et donc on ne résiste pas de cette manière à l'application de la loi. Par contre, on souhaite être vigilant et bien opposé au pouvoir public une forme de condition à ce partenariat qui est de dire reconnaissons-nous en tant que partenaire et non pas simplement en tant que prestataire. Vous décidez des politiques publiques, c'est votre rôle. Par contre, concertez-nous au préalable, acceptez qu'il y ait des innovations par rapport aux besoins des populations et aux besoins des régions, aux besoins des territoires et aux besoins du public. Et ne nous imposez pas que ce soit un système contractuel. On le voit et on a des dérapages qu'on a observés dans le cadre de financement où, sous prétexte de partenariat, on se retrouve quelquefois obligé de signer ce qu'on appelle des CEPOM, qui sont des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, sans avoir été vraiment concerté. Donc ça nous pose un problème. C'est-à-dire, c'est toute la dimension de reconnaissance en tant qu'acteur social, que ce soit des associations, que ce soit des mutuelles ou que ce soit des coopératives.
Oui, moi j'ajouterais simplement par rapport à ça, c'est que très souvent, les champs dans lesquels nous intervenons, c'est nous qui avons été à l'initiative des propositions, je veux dire que...
Des besoins locaux.
Parce que nous étions en capacité de répondre, on était plus à l'écoute des besoins des gens, et il y a bien une notion d'initiative de la part des associations en direction des pouvoirs publics. Et d'ailleurs, c'est important cet élément-là, parce que c'est ce qui fait que la collectivité ne doit pas avoir systématiquement recours à l'appel d'offres par rapport aux associations, dans la mesure où c'est bien de leur réinitiative. Alors que ça corresponde à des politiques publiques, c'est très bien. Qu'on puisse trouver justement les bons partenariats entre l'initiative associative ou l'initiative du monde de l'économie sociale par rapport aux politiques publiques, c'est extrêmement important. Nous, on tient à ce que ça soit dans ce sens-là pour justement, alors sans vouloir à tout prix utiliser les grands mots mais à être instrumentalisé en tout cas par les politiques, par les élus locaux quoi, et territoriaux. Sinon, sur la précarité, peut-être vous avez posé une question sur la précarité. Alors, c'est vrai qu'on on a tendance aussi, bon, là, Hugues tout à l'heure a largement répondu sur la problématique de l'insertion, mais c'est pas tout à fait le même sujet, mais il est vrai que on est considéré comme générant des emplois pas mal payés, des emplois à temps partiel, quelque part. Nous serions des mauvais employeurs ou en tout cas des employeurs de gens précarisés. Alors bon, c'est sans doute un peu hâtif, hein, d'abord parce que il faudrait vraiment faire une analyse extrêmement fine de ça. Il y a effectivement dans un certain nombre de champs dans lesquels nous intervenons ces difficultés, on les rencontre parce qu'il y a cette notion de multi-employeur dans l'animation, par exemple. Hein, tout à l'heure, il y a une intervention sur l'animation sportive. Il est évident que il est compliqué pour certains salariés de trouver un seul employeur qui va lui garantir un emploi à temps plein. Mais ceci dit, non, on a des conventions collectives qu'on respecte et donc qui en principe nous et heureusement d'ailleurs hein, nous oblige à payer normalement les salariés, à faire en sorte qu'ils soient à temps plein. Enfin bref, on a de vraies politiques salariales aussi. Je crois qu'il faut pas nous exclure de ça et nous donner une image complètement négative.
Alors, pour finir, une dernière question sur les coopératives, hein, qui sont de véritables entreprises productrices de richesses. C'est en développement, hein, notamment en Pays de la Loire. Hugues Vidor, un mot là-dessus. Ce système-là, ça permet justement d'endiguer ces problèmes de crise, enfin un autre système de production de richesses.
Le système coopératif est un système très, très exemplaire pour l'ensemble de l'économie sociale, dans la mesure où il offre une vision de la gouvernance assez particulière. La coopérative associe l'ensemble des salariés au projet. On retrouve ça alors par comparaison dans un certain nombre de nos secteurs, et je prendrai les centres sociaux. Dans les centres sociaux, les habitants sont au cœur du projet. Donc, et d'ailleurs, dans un certain nombre de centres sociaux, vous avez les représentants des organisations syndicales aussi. Donc, il y a des modèles de gouvernance au sein même de nos organisations qui sont intéressantes à analyser. Et le modèle coopératif est, de ce point de vue-là, tout à fait éclairant. On est là sur le débat des parties prenantes, sur les débats de la RSE. Et on voit dans le secteur coopératif que ce qui lie l'investissement, c'est pas tant l'activité, c'est plus le mode d'organisation et le mode de gouvernance. C'est-à-dire que là, on parlait d'une façon globale dans le système de l'emploi, de l'économie sociale, d'utilité sociale. Alors c'est tout à fait parlant et tout à fait explicite, par exemple pour l'aide à domicile ou pour un centre social. On voit bien la relation à l'usager, au bénéficiaire. Pour les coopératives, ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire que si on est sur une imprimerie, bon, c'est une utilité sociale, certes, mais c'est quand même pas de même nature que d'aider une personne à se lever et à rester à domicile toute sa vie. En tout cas pour ses prochaines années. Donc là, c'est véritablement le système organisationnel qui fait le sens du métier et qui attire un certain nombre de salariés à créer des coopératives et à développer le secteur coopératif qui, pour nous, est très intéressant à analyser et qui, visiblement, se développe. Et en tout cas, le secteur coopératif est très impliqué au niveau de l'UGRS, que ce soit au niveau régional ou que ce soit au niveau national.
Un système notamment qui intéresse les chefs d'entreprise qui partent et qui veulent transmettre leur bien.
Absolument, on est absolument là-dessus. C'est un modèle en fait qui peut prendre la suite de type de modèle marchand. Où là, dans le modèle marchand, on se rappelle que c'est la rentabilité capitale qui est le moteur. Là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que les bénéfices y sont répartis au niveau de l'ensemble des salariés. Donc le système même est tout à fait différent et est très intéressant. En plus, au niveau des coopératives, vous avez d'autres systèmes qui ont été créés, notamment les SIC, les systèmes coopératifs individuels de production, et qui permettent de mixer les différents publics et d'avoir à travers une coopérative à la fois des partenaires publics, des partenaires privés, des salariés. Donc là, on est dans des modèles de prise en compte de partenariat qui est d'ailleurs solidement à la mode aujourd'hui, mais l'économie sociale n'est pas la dernière, bien au contraire, puisque ça fait même partie de ses racines. racine.
Pour finir, il est nécessaire de fédérer les employeurs de l'économie sociale et solidaire.
Oui, ça nous paraît une évidence, je l'ai dit tout à l'heure, Hugues Widor l'a dit dans son propos, c'est un élément indispensable. Alors, a fortiori au niveau national, hein, puisque il est évident que il y a beaucoup de sujets qui sont transversaux et donc à la fois il faut donc respecter les spécificités de chacun, hein, dans les différentes branches et dans les différents métiers qui sont traités, mais par contre il y a beaucoup de sujets qui méritent un traitement transversal, hein, et donc il est important effectivement de travailler collectivement et de se fédérer par rapport à ça. Enfin, je ne sais pas si c'est les mots que vous attendiez. Ou... Il y a aussi une autre façon de se fédérer. Il y a aussi le fait d'être, lorsqu'on est... c'est de ne pas être isolé. Quoi. À partir du moment où on est installé localement, comment on adhère à une fédération pour justement... Être relié à d'autres et ne pas rester à la recherche de ces solutions tout seul. Quoi.
Gilles Cavet, merci, délégué régional de l'UGRS. Hugues Widor, je vous remercie également, vice-président de l'UGRS.
Merci à vous.
Merci bien.
La semaine prochaine, le rôle et le fonctionnement de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec Jacques Stern, responsable de la CRES, et Jean-Pierre Bénard, employeur, et également Émile Ferbezard, Philippe Chauvelier et Christian Derriès, élu Prud'homo. Le mois de l'économie sociale et solidaire, une émission réalisée par Emmanuel Bouger, Nathalie Lotin et Frédéric Sarello.
Mondialisation, inflation, délocalisation, spéculation, individualisme, profit. Marre d'une économie qui mène à la crise. Économie sociale et solidaire, démocratie, coopération, engagement, partage, proximité, pérennité.
Le mois de l'économie sociale et solidaire, c'est en novembre. Faites votre programme sur www.lemois-ess.org. Social et solidaire, l'économie qui sait où elle va.